Cette balado-diffusion vous est présentée par les obligations d'épargne du Canada, offertes jusqu'au 1er décembre. Et vous, pourquoi épargnez-vous?
Je voudrais prendre des cours d'anglais. This is the fenêtre du pornographe. It was presented before the news, before the émission.
Sure, see Wayne Gretzky. Un mon nom très agréable, c'est court, pornographe. Consonant canadien tiers de Tamaracien le vainqueur, après les nouvelles. C'est tu ras, grâce à d'air.
Émission the 12 novembre 2010. Gunther goes to school by boss. Yes, no, toaster.
On oublie parfois les vrais responsables de nos problèmes. Si Canadien ne produit pas en avantage, c'est la faute à Guy Boucher. Si Al Gill n'est pas capable de virer à gauche, c'est la faute à Guy Boucher. Si Joël Bouchard met trop de gel dans ses cheveux, c'est pas de la faute à Guy Boucher, mais c'est latent crime. Chaque jour, au Canada, des pirouilles font du bug dumping, des enfants mangent pas leur brocoli, des chiens pas de laisse font pipi dans les fleurs. Et qu'est-ce que Guy Boucher fait pour régler ça? Rien. Le 17 mars prochain, lors de la visite du Tampa Bay, faites savoir à Guy Boucher qu'il n'est plus le bienvenu.
Mon nom est Yvan Piquette et j'approuve ce message!
Ben c'est le mois des morts et c'est probablement ce qui explique pourquoi je perds tous mes co-animateurs au Spornographe.
Oui.
Real Monger en compagnie de José Bossé.
Salut.
Hey, comment ça, es-tu en train de virer en show de cuisine dans ta affaire puis personne m'a averti?
Ben non, Real. C'est parce que Piquette est parti en reportage et Paul est en convalescence.
En quoi?
En convalescence. Là, c'est une maladie qui fait disparaître pendant 2 semaines.
Ah, ben. Oh, oh! Justement, là, allons rejoindre Yvan Piquette à Brossard, qui a des nouvelles sur l'état de santé de Paul.
Oui, écoutez, ça va mal ici. Paul Meilleur au coin, qui est toujours sur la liste des blessés, il a pas patiné avec ses coéquipiers ce matin, entre autres parce qu'il s'est pas patiné.
Mmh. Ah, c'est sûr, ça aide pas.
Mais dites-nous, Yvan, est-ce qu'on en sait plus sur la nature de sa blessure?
Oui, il s'agirait d'une blessure à l'orgueil. Paul est apparemment très frustré d'avoir échappé le prix Jacques Demers aux mains de Gabriel Grégoire.
Gabriel Grégoire, c'est le joueur de la liste qui s'est le plus amélioré et qui est devenu d'une compétence incroyable. Chapeau, Gabriel!
Oui, ben pauvre Paul, hein, il devrait s'inscrire à la disque, parce que quand c'est le public qui vote, ça favorise les jambons.
Tout le monde chez Tim Hortons, on s'en va remplir des coupons pour Paul.
Le spornographe est là, le spornographe est là. T'aimes la bière?
Ouais.
T'aimes le jus de tomate?
Ouais.
T'es lendemain de brosse, mais Canadien joue encore?
Ouais.
Oui, c'est Normand Leblon chez Bière Tomate Sport à Laval. Bière Tomate Sport, c'est la place pour s'affecter en écoutant Canadien tout en faisant sa flore intestinale. Nos spéciaux cette semaine, Roche Garden Cocktail,
6,99.
Laurentide jus de tomate Canada de Fantaisie,
5,99.
Au Garden, V8 sans sodium,
4,99.
Tu cales tes canettes de jus de tomate, mais tu têtes ta bière?
Bière Tomate Sport, Sport.
C'est le temps de te mettre en boisson, mais t'accuses un retard dans ton apport quotidien de fruits et légumes?
Bière Tomate Sport, Sport.
Oui, c'est Normand Leblon chez Bière Tomate Sport à Laval qui vous dit.
Chronique Sport et Société avec Fred Savard, alias Maître Verge.
Je me sens bien, j'ai besoin pour me réveiller
d'un bon café. Un seul nom, Jonathan Roy.
Ah.
Et Maître Verge, qui est ce soir en direct de l'étranger, 10-4.
Ben effectivement, les amis, écoutez, on a de cesse dans les médias sportifs à Montréal de parler encore de Yaroslav Halak, s'il est parti. Et je me suis dit, même, écoutez, il y a des gens de la presse écrite qui se sont rendus à Saint-Louis. Alors je me suis dit que ce serait une bonne occasion de gaspiller des fonds publics et d'aller moi-même à Saint-Louis. Je n'étais jamais allé.
Ah, ben c'est vraiment une bonne idée. Oui. C'est une très bonne idée, ça.
Alors je suis allé humer un peu là, l'émerveillement des gens du Missouri pour le meilleur gardien de but de la galaxie qui fait paraître Patrick Roy pour son fils Jonathan.
Ben oui. Fred, est-ce qu'on... Alors, venez dans le studio, là. On n'est pas chez Chorus ici, là. Ouais, venez-vous-en.
OK, j'arrive.
Bon, venez-vous-en. Alors, est-ce qu'on assiste à une Halak mania à Saint-Louis?
Ben, il faut dire qu'il y a une tradition à Saint-Louis de grands gardiens. Ouais. On pense à Glenard, Jacques Plante, Mike Liut ou Grant Fuhr.
Ah, ouais.
Donc, les gens d'ici ont déjà vu neiger côté gardien de but. Ouais. Écoutez, ça fait 2 jours que je suis à Saint-Louis et on ne me parle que d'une chose, Jonathan Duhamel.
Ah,
vous ne pouvez pas imaginer du rayonnement que le Québec reçoit depuis que le jeune homme a remporté le championnat mondial de poker. On peut s'en douter, ce championnat est extrêmement suivi.
Ben,
d'ailleurs, si je vous demande là, qui sont les 3 derniers champions du monde, vous n'aurez j'ai aucune difficulté à me nommer.
Non, mais non. Jim, Bob, Bob? Weasel, name it.
Bob? Ouais, alors, vraiment, name it. Oui, Bob. Vraiment, depuis que je suis ici, on n'a cessé de me poser des questions sur le Québec. Ah, par exemple, est-ce qu'on enseigne le poker à la maternelle? Oh. Est-ce que les femmes québécoises mangent des chips pendant leur grossesse pour engendrer de tels champions? Là, on parle de chips de jeu, pas des chips au vinaigre. On m'a également beaucoup demandé si le fait que la mafia contrôlait l'industrie de la construction n'aurait pas favorisé une culture du gambling dans le Belle Province, comme ils disent là-bas. Alors, comme vous le voyez, les gens de Saint-Louis sont bien informés. D'ailleurs, plusieurs Saint-Louis ont insisté pour me toucher, pensant que ça allait leur porter chance. Et moi, de répéter, I'm not Yves Corbeil, I'm not Yves Corbeil. On a beaucoup ri.
Je comprends, donc. Mais dans quelle direction s'est portée votre enquête sur les succès de Halak?
Ben, écoutez, avant de voir Halak à l'œil, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'aller fouiller dans les poubelles de Yarrow pour voir si j'aurais pas pu trouver un indice intéressant pour expliquer son succès. Mais malheureusement, Richard Labbé était passé avant moi, alors il ne restait plus rien. Alors, je me suis rendu au Scott Straight Center pour assister à un match des Blues, question de voir de visu la magie opérée. Et effectivement, écoutez, c'est vraiment quelque chose. Ouais. Il est encore meilleur que l'an dernier pendant les séries, ce qui n'est pas peu dire. On ne peut pas nier qu'Halak connaît une saison exceptionnelle. Il présente des statistiques impressionnantes. Moyenne de buts alloués, 1.46. 8 victoires, 1 défaite, 3 blanchissages, un pourcentage d'arrêt de 9.44.
Incroyable.
Écoutez, comparé à Carey Price et sa ridicule moyenne de 2,28, c'est ridicule, 8 victoires. C'est 2 blanchissages qu'il doit uniquement à la chance et sa famélique moyenne d'efficacité de 0.918. On se rend compte que le Canadien profite de la médiocrité des équipes de l'Est pour trôner sans aucun mérite au troisième rang de leur conférence.
Bien
c'est
dit,
le temps de paniquer, je pense.
Oui, ben c'est clair.
Allez, écoutez, même Ty Conklin est de loin supérieur à Carey Price. Ouais. En fait, Conklin est même supérieur à Halak, si une telle chose est possible.
Mais voyons donc. Vous.
Un blanchissage en 2 matchs. Si ce gars-là joue 200 games, là, c'est 100 blanchissages. Une moyenne de buts alloués de 0,96 et une moyenne d'efficacité de 9,62. C'est incroyable.
Oui, mais là, si Conklin est aussi dominant, là, c'est pas une question de système défensif avant une question de talent. Là,
bon, évidemment, les mauvaises langues diront que le Blues est l'équipe qui accorde le moins de lancers par match en moyenne dans la LNH. J'en ai d'ailleurs parlé à Donkey Dave, poney de 8 ans qui est également troisième gardien de but à Saint-Louis. Oui. Et je l'ai interviewé au Bernie Federico's Buffet, le salon des anciens joueurs des Blues, qui était désert ce soir-là. C'est vrai, Frédéric, que l'on peut effectivement déduire que Yarrow est dominant parce qu'il ne reçoit pas beaucoup de tirs, mais la réalité, c'est qu'Halak est tellement dominant que les équipes adverses se découragent et se disent que même s'il lance beaucoup, Halak va toutes les arrêter.
Retournez au téléphone pour faire semblant que vous êtes à Saint-Louis. Là. OK. Ah ben, c'est un point de vue très convaincant, Fred.
Oui. Je pense que le dossier est réglé, on n'a plus besoin d'en parler. Je m'apprête d'ailleurs à sauter dans l'avion qui me ramènera à Montréal. J'en profiterai pour terminer la lecture du livre « Dans les coulisses de 110% » de Daniel Poulain, qui prouve hors de tout doute que Michel Villeneuve est l'être le plus désagréable de la communauté journalistique. Oui, évidemment, ça s'entend quand on l'écoute à la radio, mais ça fait du bien de le lire par quelqu'un qui l'a fréquenté.
Merci, Fred. Merci. Bon retour, là.
Merci.
Les grands moments du hockey! Cette semaine, au grand moment du hockey! Nos amis, les animaux! Tels des ninjas en cavale, les animaux s'immiscent dans le hockey au moment où on s'y attend le moins. Parlez-en à l'attaquant Gary Hunter, dont la bonne performance au match des étoiles lui mérite un veau! D'autres sont moins chanceux. Invité d'honneur au cirque local, le DG des Arrows de Houston, Bill Dineen, se fait faire caca dessus par un éléphant. Mention spéciale à l'entraîneur des Devils de Jim Schoenfeld, suspendu pour avoir crié à l'arbitre « Va donc manger des beignes, gros porc! » Mais l'honneur de l'anecdote d'animaux la plus drôle revient aux Devils. Lors d'un vol New Jersey-Edmonton, les joueurs profitent du sommeil de Pat Verbeek pour remplacer sa carte d'embarquement par une fausse. Sous la rubrique « But de votre visite au Canada », Verbeek déclare être un éleveur de cochons souhaitant visiter des fermes de cochons dans le but d'importer des cochons. Revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres grands moments du hockey!
Bonjour, ici Carl Carmoni. Vous écoutez la Spornographe à Radio-Canada dans le but de relancer le mini-pot.
Honnêtement, si je regarde, je recule un peu, là.
Oui.
Guy Boucher a peut-être fait beaucoup mal au hockey junior majeur du Québec.
Accueillons celui qui fait beaucoup mal aux pornographes, Yvan Piquette.
Messieurs, dames, on savait depuis longtemps que Guy Boucher, l'entraîneur du Lightning de Tampa Bay, était un méchant.
Ah, mais pourquoi? Ah, parce qu'il n'est pas resté avec le club canadien.
Non, parce qu'il a une cicatrice d'en face. Ah. Dans les films, là, le gars avec la cicatrice, là, c'est toujours le méchant.
Ah,
même Patrick Roy l'a dit, il a brisé le hockey avec son option défensive.
C'est ce que ces équipes-là font. Ils n'ont pas le choix. Ils prennent cette option-là qui se présente à eux, puis c'est une option qui est excessivement difficile à jouer contre.
Il n'en fallait pas plus pour que les experts sortent leur calcul à stress.
Leur quoi?
Leur calcul à stress.
Au-delà de la poutine mathématique, la calculatrice des plus efficaces de Stéphane Leroux, celle qui permet d'établir des faits souvent criants permettant de relativiser des propos provenant du champ gauche, il y a quelques perspectives psychologiques fascinantes qui peuvent permettre d'expliquer ces comportements, disons, bizarres, pour rester poli. Ouais.
Bon, quoi? Pour rester poli, là, Jean-Charles, il bloque plein de mots fancy qui ne fit pas ensemble pour avoir l'air intelligent, mm-hmm. mais tout ce qu'il veut dire, là, c'est que les statistiques démontrent que Patrick Roy a pas rapport.
Ah, mais si c'était pas Patrick Roy, il y aurait-tu une polémique comme ça?
On dit une polémique.
Ah, polémique.
Enlève le nom de Guy Boucher pour éviter la polémique. Là. Enlève le nom de Patrick Roy. Il y a un gars crédible qui dit que la défensive fait en sorte que ça fait reculer le hockey en 2010. Aïe, aïe, c'est quand même gros, là.
Oh oui, c'est gros, mais c'est encore plus gros à cause de Roy puis Boucher parce que nous, les Québécois, là, on aime ça manger de la laine.
De la laine?
Belle analyse, puis un beau constat de savoir qui qu'on est, nous les Québécois, qui se mangent la laine entre nous autres mêmes.
Puis au bout du compte, là, on se ramasse tout nu.
Mais pourquoi il a dit ça, Patrick? Je comprends pas. C'est...
Ah ben justement, là, première hypothèse, Patrick veut passer un message aux autres équipes pour qu'elles le laissent compter des buts. Écoutons un entraîneur de la LHJMQ à ce sujet.
Pourquoi il a dit ça, Patrick Roy?
Ah ben, il y a une équipe très explosive offensivement, puis il aime probablement pas la façon que les autres équipes jouent contre son club, puis il a essayé de mettre un petit peu de pression sur les entraîneurs de la Ligue là, pour que on ferme pas le jeu contre sa puissance, je pense.
Ouais, c'est un peu comme quand tu joues au hockey contre ton petit frère, tu lui dis « compte pas de but, sinon je te pète la gueule ».
C'est ça. Ouais. Deuxième hypothèse, Patrick veut vendre des tickets, même si son colisée est déjà plein. Ah. Alain Chantelois.
Ah, c'est un home and home en fin de semaine avec...
Alors toi, c'est pour vendre les billets.
Ben non, mais écoute, Patrick, là...
Ils sont déjà vendus.
Ça va être... Non, mais je vais te dire une chose, il va avoir de l'intérêt, il va avoir des médias là, puis il va avoir une meilleure couverture que d'habitude.
Alors c'est un coup publicitaire, selon toi.
Ah, c'est comme Joël Legendre avec son coming out.
Exact. Genre. Troisième hypothèse, Patrick s'ennuie des projecteurs. Jean Pagé.
Ben moi non plus, ça sort de nulle part. On a l'impression que Patrick, quand tu fais pas parler de lui depuis une couple de mois, là, il dit bon ben il faudrait que je sorte quelque chose.
Brett Favre aussi, il est comme ça avec sa bisoune, hein. Faudrait que je sorte quelque chose.
Oui. Ouais.
Quatrième hypothèse, Patrick est une victime. Ce sont les journalistes qui manquent de sujets. Stéphane Leroux.
Ouais, on manque un peu d'histoire. Je dis pas que c'est ça qui s'est passé hier. J'élève une possibilité, là. Ça se peut-tu qu'hier, ben, à la pratique, on avait peut-être pas autant de sujets qu'à l'habitude, puis tout ça. Puis on a lancé une discussion là-dessus, je sais pas.
Ouais, les journalistes feraient jamais ça.
Ben non. Cinquième hypothèse, Patrick est jaloux de Guy Boucher. Régent Tremblay.
Ah, le problème, ça doit l'insulter de voir que Guy Boucher dans la Ligue nationale.
Hey, puis imaginez si le Lightning déménage à Québec.
Oh! Sixième hypothèse, Patrick se pratique pour passer à TV. Jean-Charles Lajoie.
Soyez pas surpris de voir apparaître Patrick Roy sur un plateau de télévision. Je sais pas, moi, disons dans une émission de sport de fin de soirée, disons sur un réseau d'information continue général qui va donner dans le sport une heure par soir. Disons.
Patrick Roy va jouer dans Bleu Nuit?
C'est ça, José, c'est ça. Donc, si on compile tout ça, là, on peut dire que, selon les experts, Patrick est un crosseur narcissique, naïf, jaloux et ambitieux.
Oh, beau portrait.
Oui, oui. Non, mais sérieux, là, je pense que la meilleure analyse, c'est celle de Stéphane Leroux.
Il a fait une déclaration qui dit « J'ai d'autres choses à faire dans la vie que de commander des propos sans fondement comme ça. » Je sais pas pourquoi, honnêtement, on, entre guillemets, je vais le dire, entre guillemets, on perd un peu de temps à jouer avec ça aujourd'hui. Là.
OK, fait qu'on vient-tu juste de perdre 4 minutes, nous autres?
OK, fait qu'on passe à un autre appel. Merci, bonsoir.
OK.
Bonsoir, ici à Guy Côté pour le combat des clips. La semaine dernière, Gabriel Grégoire a déjoué tous nos pronostics en l'emportant sur Jean-Charles, avec son histoire de viande d'orignal qui goûte pas bon.
Elle a comme un goût salé, dur et nip.
Cette semaine, Jérémy Rainville profite de l'absence de son chum, Michel Langevin, pour nous dire qu'il est un gros tort.
Quand on rentre ici à Corus Québec, il y a une photo de lui. Il est tout mince. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai été jouer au hockey avec lui une fois. Écoute bien, avant d'aller jouer au hockey, là, un 12 pouces, deux biscuits.
Il se mesure au caporal Yvon Penneau, qui prend le rythme.
Mais là, les points de référence, c'est 1, puis 2, puis 3, Marc. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Comme dans l'armée. Gauche, droite. Ouais. Gauche, droite. Gauche, droite.
Ha! Ha! Attends, boy, Yvon. Si t'avais pas ce shape-là, on jurait que t'as déjà fait l'armée. On se donne rendez-vous au sportnographe.com pour voter pour votre clip préféré. Participez en grand nombre, tweetez ça à vos amis Facebook. Le gagnant vous sera dévoilé la semaine prochaine. Ciao! Hey, tu gars, attends une minute! J'ai rajouté un petit mot en italien, là, tu comprends-tu? Ciao! Je veux dire bye!
En audition avec Réal.
Merci, Manuel. C'était bien fin d'être passé. C'était Manuel qui?
Urtubi. Oh, OK, Mario Tremblay est arrivé, là.
Bon, ben Mario, écoute, merci d'être là. Écoute, Paul nous a encore fait des mains cette semaine, et puis c'est clair qu'on veut que tu le remplaces, là, mais avant d'engager quelqu'un d'autre, là, on va être certain de bien choisir cette fois-là, tu comprends?
Certain, je le comprends.
Colin, tu sais, un gars comme Paul, par exemple, qui nous dit « Je pars juste une semaine », puis il sac son camp sans retourner nos appels, ça nous met en motadine.
Écoute, ça se fait pas. Non? Moi, je trouve ça... Je trouve ça malhonnête de faire ça.
Bien d'accord avec toi là-dessus, bien d'accord. Bon, ben, je suis content d'entendre ça. Je ne voudrais pas que ça se reproduise avec toi. Sinon, je regarde ton CV. Là, j'essaie ici 2 ans sous la supervision de Régent Hull. Oh. T'es tough. Assistant de Jacques Lemaire dans un rôle effacé. Tu ne voleras pas à vedette, c'est parfait. Ben, écoute, pas besoin d'aller plus loin. Là, on partage la même vision. C'est un match parfait. Une seule chose, mon Mario, tu serais sur appel.
Oui, c'est pas aussi correct ça.
Ouais? OK. Ah. Ben, écoute, surprends-toi pas, par exemple, qu'on t'appelle plus tôt que prévu. Là, travailler avec un nono, là, c'est pas le fun. Oh, ça doit être un peu la même chose avec toi, puis l'Angevin à l'antichambre.
Ben, écoute, hein? C'est sûr que...
Ah, regarde, OK, c'est beau. Réponds pas, mais on se comprend. Entre bleuets. OK, on te rappelle, mon Mario.
OK.
Que ce soit donc pour honorer le CH, le hockey, la mythologie, tous se prévalent désormais de ce masque comme plateforme d'expression. Non pas pour déguiser ou dissimuler son identité, mais plutôt pour la révéler.
Oh! Le masque de gardien a subi depuis sa création de nombreuses métamorphoses. Mais depuis les années 80, la combinaison masque-grille est l'outil de choix. Oui. Plus récemment, on note un autre changement, celui de l'art graphique peint sur le masque. Et pour nous en parler davantage, Michel Godbout, journaliste sportif à la télévision des Anglais de la CBC. Michel, bonsoir.
Hello, bonsoir. Hey, bonsoir.
On est à des années-lumière du bon vieux masque blanc à la Jason. Pourquoi, donc?
Ben écoute, le gardien, comme n'importe qui d'autre, il veut ressortir de la foule, c'est tout à fait normal. Ben les jambes bien, les gants, le gros hockey, le fait qu'il patine pas, on dirait que c'est plus assez là maintenant. Il doit se distinguer via le masque. La peinture du masque devient donc la plupart du temps, en tout cas, une extension de la personnalité du gardien.
Donc, Carey Price aime le rodéo, c'est ce qui fait peindre sur son masque.
Et voilà. Oui, puis il y a 2 ans, il aurait pu faire peinturer des shooters sur son masque. Il a opté pour Garth Brooks, finalement. Dans le temps, David Abisher a pu faire peindre une passoire, peut-être. Oh. J'exagère à peine là-dessus. Yaroslav Halak, lui, il avait un mur de briques. Oui, hein? On va y revenir tantôt, mais là, Halak, lui, pas très connu pour ses talents de bricoleur, mais en tout cas, c'est néanmoins pour illustrer bon, qu'il se dresse comme un mur devant les tireurs fous devant.
Oui, on a compris. Mais c'est assez traditionnel, mais il y a eu des peintures étranges quand même, là.
En effet, les nostalgiques, les vieux comme moi, tout simplement, se souviendront de la tête de mort du masque de Gary Bromley, les Canucks de Vancouver.
Ouais, ça, on a tous vu ça quand même.
On a vu ça. Les trois washers, bleu, blanc, rouge de Canada.
Ah, c'est des washers, ça? Oui.
Étrangement, ça ressemblait à ça.
Okay.
Mais aujourd'hui, avec le Airbrush, the sky is the limit, mes amis. Oui. Et vous connaissez la réputation des gardiens?
C'est-à-dire?
Bon, un peu weirdo, étrange parfois, dans leur bulle.
Solitaire.
Pas très sociable. Donc, tenant compte de ses énormes qualités.
Oui, parce que vous êtes un gardien de but vous-même, j'imagine.
Merci. Ouais, c'est ça. La nouvelle technologie aussi. Donc, là, lorsqu'on rassemble tous ces éléments, on peut quand même arriver avec un résultat qui peut s'avérer intéressant.
Créatif, disons. Créatif. Oui, on va le dire comme ça.
Donc, moi, j'ai demandé à l'artiste peintre David Leroux, qui se spécialise dans les masques de gardien, à quel a été donc le concept le plus étrange qu'un Cerbère lui ait présenté.
Le gars, il joue dans une ligue semi-professionnelle, une ligue vraiment dure, tu sais. Il m'arrive, je vais avoir quelque chose de tough, tu sais. Il dit, j'aimerais ça avoir Vin Diesel, l'acteur, en chess sur mon masque. Fait que là, je dis, voyons, c'est pas tough, ça, là. C'est même... tendancieux un peu, là, ça fonctionne pas, là. Fait qu'il dit, t'es sûr?
Ben oui, on est pas mal sûr. Sans casser, il a pu peinturer la une du Journal de Montréal avec Joël Legendre dessus. Ça aurait été tard.
Tant qu'à ça, mais écoutez, pas à court de mauvaises idées, le jeune gardien de la Ligue de Toff, lui, est revenu à la charge avec un nouveau concept qui, selon moi, en tout cas, redéfinit le sens du mot Toff.
Fait que finalement, il a repensé à son affaire, puis il est revenu, il dit, j'ai une bien meilleure idée, on va faire les rases moquettes sur mon casque. Dessin animé pour enfants.
Fait que les rases moquettes dans la Ligue Senior, c'est la prochaine étape, les Teletubbies.
Ça atteste à se rendre, peut-être?
Possiblement. En tout cas, l'originalité, vous savez, c'est pas la chasse gardée de tous les gardiens. Il y a un autre exemple qui est très loin des pointitures de Jerry Cheevers ou encore du masque tigre de Gilles, le Space Cadet Graton avec les Rangers à l'époque. On est davantage ici là, dans la lignée des gros logos in your face, pas très songé, style collant STP sur les voitures NASCAR. Finalement, un peu comme le masque d'André Rosico. À l'époque, on s'en souvient tous, malheureusement. Écoutez David Leroux.
Il y en a d'autres qui arrivent avec le fameux moule de gardien de but préétabli. Mon surnom, c'est The Wall. J'aimerais ça avoir un mur de briques. Ça, là, je l'ai eu 300 fois. Fait que là, ça, c'est mon, c'est ma plus grosse négociation à cette heure-là.
Ah, ça veut dire qu'Alak puis son casque avec un mur de briques, il aurait pas pu faire peinturer son masque
d'Alak. T'as tout pigé. Ah, rien de caché là-dessus. Écoute, il y en a des centaines, hein, des masques de gardien avec des murs de briques. Le roux va se pendre avec son tuyau d'airbrush si on y en demande un autre. Okay. Alors, question d'inspirer des gardiens qui songent peut-être à une autre fresque faciale bricolée.
Bien dit.
Merci. Le roux propose ceci.
On peut-tu trouver une autre variation, là, tu sais, de mur? Qui pourrait être, ça peut être un mur de pierre, un mur de planche, un mur de n'importe quoi.
Ah, le mur de Benoît Gagnon, par exemple. Hein? Émission, quel bon jeu.
Pourquoi pas, mais avec un char qui rentre dedans.
Ah oui,
Benoît, il aimerait mieux ça. Okay. Alors, en terminant, une question ici s'impose. Ouais. Quels seraient vos choix de peinture sur vos masques?
Ah, ben moi, c'est sûr, ce serait une gang de cheerleaders en bikini.
Ah, ouais. Moi, ce serait un jambon.
Ah, moi, c'est la face d'Yvon Penneau, mais de côté, c'est 1996.
Okay. Ah, puis moi, c'est une image de José et ses cheerleaders mangeant une poutine assis sur un mur de briques.
Un poster au Texas. Merci, Michel.
Non, non, je te dis, c'est comme un étau qui s'ouvre et qui se ferme. Piquette, c'est à toi.
Il a inventé les internets avec Al Gore et nous sommes très fiers de l'avoir avec nous. Piquette, c'est le moment des internets. Quoi de neuf cette semaine?
Eh bien, cette semaine, j'ai parcouru le web d'un bout à l'autre pour trouver les plus splendides masques de gardiens de but au monde.
Ah ben, et qu'avez-vous trouvé de beau?
Rien, ils sont toutes lettres.
Ah ben, l'internet, là, c'est vraiment le carrefour de l'art et de la technologie. Merci, Piquette.
Juste à temps pour Noël, Spornographe présente Soirée canadienne, une compilation de chansons à répondre de canadiens. Comprenant le succès, Asimoen voulait lancer.
Asimoen voulait lancer.
Asimoen voulait lancer.
C'est bien qui finirait par scorer.
C'est bien qui finirait par scorer.
Revivez la magie des méchants mardis avec ce vibrant hommage à Benoît Brunet.
Gros bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer?
Gros bonhomme, bonhomme, sais-tu jouer?
Sais-tu jouer de ce bâton-là?
Sais-tu jouer de ce bâton-là?
Dingue de dingue de ce bâton-là!
Aïe aïe! Comprenant également la Giga Georges! Et la chanson de Spatchek!
Prends une tasse de café, mon minou, ça va passer à Blue Ride Crew. Tu prends des buts, pis t'en scores pas. On signe pour trois saisons, t'es payé 12 millions, mais t'es pas bon.
La compilation de chansons à répondre de Canadiens, en vente partout.
Vous écoutez le Spornographe. Retrouvons Piquette, Manger et
José Bossé. Chum, là, on va se dire les vraies affaires. La chasse, c'est compliqué, ça n'a pas de bon sens.
Ça, c'est vrai.
On reçoit des informations de partout, on ne sait pas trop à quel sein se vouer, mais ici, au Spornographe, s'il y a une chose qu'on sait faire à part des bonnes tourtières du lac, c'est de mettre de l'ordre dans le monde de l'information sportive.
C'est vrai.
Et souvent en se basant sur une seule source. En l'occurrence, ce soir, Gabriel Grégoire. Par exemple, on pensait que le troupeau de cerfs de Virginie était en hausse depuis un certain temps, mais voilà-t-il pas qu'on apprend dans les nouvelles que ce serait plutôt le contraire.
C'est sûr que vous avez appris ça.
Gabriel Grégoire, à ses cassés, qui lui l'aurait appris en lisant Louis-Gilles Francoeur, qui lui l'aurait appris de son boucher.
Il pose des questions aujourd'hui. Tout son papier là-dessus, puis c'est pas scientifique son affaire, sauf qu'à attendre, à aller chez son boucher, il a attendu toutes sortes d'affaires cet été, parce que selon lui, il y a baisse de cerfs de Virginie dans plusieurs régions.
Hey, c'est peut-être pas scientifique, là, mais ça peut pas être vrai. Y a-tu de quoi de plus fiable qu'attendre ça de son boucher? Mais paradoxalement, là, on a également appris plus tôt cette saison, vous savez, que le Langevin est en voie de disparition.
Québec est à la recherche de nouveaux Michel Langevin.
C'est quoi Michel Langevin? Explique-moi. Là.
C'est que en ce moment, la chasse cherche de nouveaux adeptes.
Ben, c'est spécial. Ça me semble que notre société est de plus en plus violente. Il me semble que la chasse devrait être de plus en plus populaire.
Ah, effectivement, José. Bonne observation. On écoute l'hypothèse du professeur Grégoire là-dessus.
Les jeunes sont habitués à tirer 100 balles
OK, à la seconde, tuer des paquets de gens. Il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas d'adrénaline, il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'effort sur les sites Internet. Sauf qu'en ce moment, il manque des chasseurs, il manque de jeunes, OK, sur le terrain. Il n'y a plus de chasseurs.
Il n'y a plus de chasseurs. Oui. Il n'y a plus de verbes en France non plus, mais ça, c'est pas grave.
Mais là, on est mélangé, le monde. Il n'y a comme pas de logique là-dedans.
Oui, s'il n'y a plus de chasseurs parce que les jeunes ne chassent plus, mais qu'il y a une baisse du cheptel de chevreuil, là, c'est qui le coupable?
L'arbalète, hein?
À cause de gens qui, tout d'un coup, ont décidé de s'acheter des arbalètes, puis d'utiliser des arbalètes n'importe quand, OK, puis sans enregistrer les animaux morts, puis c'est-à-dire que...
C'est-à-dire que ça a l'air d'aller un peu n'importe où, son affaire, Gabichou.
Non, mais laissez-les continuer, là, vous allez comprendre, allez voir.
C'est-à-dire que je tue un chevreuil, ah ben j'ai dit, faut que je le débite, ce chevreuil-là. Là, en ce moment, il se vend aussi des couteaux de débitage comme on n'a jamais vu aussi. Fait qu'on se pose des questions, puis ces chevreuils-là sont pas enregistrés.
L'arbalète, le couteau de débitage et les chevreuils qui oublient de s'enregistrer, mesdames et messieurs.
C'est pas bien plus clair, là. Mais ce que je comprends, c'est qu'au fond, c'est le braconnage, le coupable.
Ben oui. Aussi. Les gens tuent sans scrupules et contournent les lois.
Ah, OK, c'est pour ça qu'il faut plus de Michel Langevin et des chasseurs informés sur les réglementations et qui les respectent.
Selon Gabi, c'est exactement ça. Mais c'est aussi parce qu'on souffre du complexe de Bambi. Hein?
Du complexe de Bambi?
Souffre du complexe de Bambi.
À cause du complexe de Bambi, on veut pas tuer. C'est cruel de tuer des petits Bambi.
Ouais, à cause du complexe de Bambi, plus personne veut tuer des beaux petits chevreuils. Mais il y en a moins dans la nature. Mais le monde, ils ont des gros couteaux, comprenez-vous? Ils sont gênés de tuer. Ah, vous comprenez la logique
en
de Gabi, là?
Je suis pas certaine que vous la comprenez. Vous-même, Munger, le monde achète des arbalètes pour tuer, mais finalement, il tue rien.
Effectivement, José, bonne observation. On écoute l'hypothèse du professeur Grégoire là-dessus.
Les jeunes sont habitués à tirer 100 balles. OK, à la seconde.
Hey, wow, là, on vient pas de vivre ce moment-là, il y a deux minutes.
Ouais, on tourne en rond, là, mon Dieu. Vous étiez supposé nous démêler ça, mais là, vous prenez juste Gabriel comme source. Ouais. En fait, c'est peut-être ça le problème de la chasse au Québec, hein. Les porte-paroles en parlent sans connaissance de cause pendant que les vrais chasseurs se poussent dans le bois. C'est ça, mon Dieu?
Aujourd'hui, on est le 12 novembre. La température est très nuageuse, très humide. On va essayer de coller les chevreuils avec une canne.
C'est le chevreuil, ça.
Fait que comme je vous disais, l'important dans la tourtière du Saguenay, c'est de couper les patates en petits morceaux. Okay. Là, tu fais cuire au four pendant 6 heures. Allô? Ouais.
Ça prend au moins 12 heures une bonne tourtière là-bas. Hein?
Qui est à l'appareil, là?
Ben, c'est Claude Quenneville de l'émission Culture Physique à 22 heures à la première chaîne.
Ah, ben oui, belle plug, regardons ça. Et votre sujet principal ce soir, Claude?
Ben, de la vraie tourtière d'abord, puis ensuite le shish kebab. L'escrime.
OK.
Ce sont les championnats du monde en ce moment même.
Bon, ben on va vous laisser à vos shish kebab et votre tourtière, Claude. Merci, là.
Bye-bye.
Bon appétit.
Bye-bye.
Un ami et un nouveau pilier de l'équipe des sports de CGMS, M. Pierre Trudel.
Pierre Trudel, le Habsbin.
À compter de 15h30, j'ai numéré de retour à la maison.
C'est une paire de billets de saison pour le Manic, c'est une paire de billets de saison pour les expos.
Non, non, c'est pas possible.
Ouais, c'est possible.
Ah, ben, Pierre Trudel, si on vous demandait des passes de saison... Ben non, on vous applaudit pas maintenant. Si on vous demandait des billets de saison pour Canadiens maintenant, est-ce que vous pourriez nous en donner?
Non.
Hein? Non?
Vous avez plus ce pouvoir-là, vous?
Non.
Hey,
ça fait longtemps.
Bon, fait que... C'est moins intéressant d'un coup, là. Vous allez me parler de quoi, là?
Pas demandé, mais je pourrais aller sur la passe.
Le lendemain, vous pourriez rentrer, là.
Comme vous autres, d'ailleurs.
Oui, oui. Dites-moi, vous parlez de quoi, là? Je vois vos notes, que pas lisibles, là.
Ben, je voulais avoir le sujet de Jean Dion, mais je n'ai pas eu.
Vous l'avez raté.
Ben, c'est ça. On va parler de Larry Smith.
Ah oui, ben oui.
Qui a été démissionné cette semaine.
Un nom qui a été démissionné.
De son poste de président des
Alouettes
de Montréal.
Mais ce n'est pas ce qu'il a dit, pourtant. Il a dit qu'il réfléchissait depuis un an, puis qu'il a décidé de son propre chef.
Oui, il a dit ça.
mais c'est ça avec tous les grands sportifs
à
Montréal.
Faut pas tout les croire. Hein,
Bob Gainé aussi, on a dit qu'il avait été
démissionné.
Oui. Donc, racontez-nous l'histoire
de Larry
Smith.
Non, mais ça fait tellement longtemps que je le connais, Larry. Évidemment, j'ai eu l'occasion de collaborer souvent avec lui ou lui avec moi à l'émission parce que, étant président des Alouettes, puis à l'époque, il était même joueur, il était athlète.
Ah, oui.
Mais notre première rencontre, elle remonte à 1978. au mois d'août 78. Oui, oui. Et c'était chez lui, là où l'Ontario commence, dans l'Ouest Island.
Oui, oui. C'est Saint-Laurent.
Alors, oui. Puis à un moment donné, ben, comme c'était des grandes entrevues pour TV Hebdo, je n'étais pas dans le sport. Puis ça,
entrevues pour TV Hebdo. Ouais, ben,
TV Hebdo de l'époque.
Ah, c'était pas la même.
Tu avais 5 pages dans TV Hebdo, vous savez la preuve. Oui. Elle est là.
Okay. Wow.
Alors, je cherchais des sujets, moi, qui différaient de ce qu'on pouvait lire dans le quotidien. Et comme à un moment donné, ça fait 78, ça fait 116 plus 2, ça fait 118, le PQ était au pouvoir.
76 plus 2, c'est 78.
Bronfman a fait, a fait ses menaces de quitter. J'ai vérifié ça avec Jean tantôt. Okay. Et Larry, lui, est un petit peu offusqué. Moi, j'amène le sujet. J'ai dit, moi, tu vis dans un endroit où il y a majoritairement anglophone. Et là, il m'avait corrigé. Puis c'est là que la discussion politique est partie, dont on parle encore tous les deux, 30 ans plus tard.
Ouais.
Il dit non. Je ne sais pas si c'est vrai, j'ai jamais vérifié. Il dit non, 60% de la population dans le West Island, c'est francophone. Le reste, c'est anglophone et on s'entend très bien. C'est quasiment un endroit à recommander pour tout le Canada, un exemple à suivre et puis tout ça.
C'est vrai, parce qu'on voit le titre de votre article, Larry Smith, homme de fer et Québécois pur laine.
Oui.
Incroyable.
Tu vois comment j'étais songé dans
avec
les
pubs de
Québécois
pur laine,
puis je parle d'un anglophone. Il est né à Hudson, c'est un gars de. Encore là, c'est dans le West Island, mais c'est au Québec. Il y a des pur laine qui n'ont pas juste francophone.
Il n'y a pas d'excuse valable pour un anglophone de ne pas parler français, qu'a dit Larry Smith. Oh, ouais. Il ne serait pas président canadien.
Non, monsieur.
C'est des belles déclarations politiques, ça, là.
Oui. Et ses enfants, je vais envoyer dans le texte, je pense, en quelque part, il dit mes enfants vont aller à l'école primaire en français et au secondaire en anglais. Ils seront parfaits bilingues. Non, c'est un bonhomme. Charmant, puis à qui on doit la renaissance du football à Montréal et au Québec. Ouais. Écoute, il y avait à peu près 2000 personnes qui allaient au stade olympique. Là, il est arrivé une espèce de chanteur qui a dit, puis là, ils ont on va tasser les alouettes, puis lui, il va préparer son spectacle. Un gars qui s'appelle U2, quelque chose de genre.
Une affaire de groupe, c'est ça.
Alors, donc, ils n'ont pas pu disputer un match-là. C'est là qu'il était au stade Percival Molson, l'Université McGill. Puis là, à un moment donné, au lieu de mettre 2000 dans un stade qui en contient 60, il était 20000 dans un stade qui en contenait 20000. Mm-hmm. Alors, c'est là que le football est reparti. Puis moi, à mon avis, c'est là que ça a eu une influence sur la résurrection du football à l'Université de Montréal, la résurrection du football à l'Université de Sherbrooke.
Et tout ça à cause de Larry Smith.
Ben non, à cause de U2.
Ah, ben oui, à cause de YouTube. Mon Dieu, je ne fais pas de lien, moi. Mais mon Dieu, vous êtes un chroniqueur culturel incroyable. Hein? TV Hebdo.
Non, mais tu continues même, tu veux défaire toutes mes paroles, là? Moi, c'est fini, ma chronique. Tiens, voilà une autre photo.
Une autre photo? Ah, ben oui, mais mon Dieu.
Vous portez bien
la barbe. Ben oui, c'est Raël et Larry Smith.
Ah oui, c'est mon époque. Oui.
C'est votre époque, Raël. Tout le monde l'a eu à un moment donné. Même Piquette l'a eu. Merci beaucoup.
C'est un peu extraterrestre, effectivement. Tout ça. Maintenant, je travaille avec des extraterrestres.
Oh, on coupe ça direct quand on va finir.
Brigitte Bardot à ses bébés phoques et Georges Larac sont tofus. C'est maintenant au Sportographe de soutenir une cause et de récolter des crédits d'impôt. Le Sportographe demande le retour du mini-pot à la télé. Chaque année au Québec, des centaines de terrains de mini-pots sont abandonnés et remplacés par des gaz de schiste. Chaque année, près de 2 millions de petits Québécois ne jouent pas aux mini-pots, mangent des hot-dogs et deviennent obèses. Le retour du mini-pot à la télé, pour un Québec vert et en santé.
Ici Carl Carmoni. Visitez le sportnographe.com afin d'adhérer à la campagne pour le retour du mini-pot à TV.
Ça se pourra!
You better start to run, cause I'll commit a crime. I heard you so strong, you'll suffocate. I'll leave you the choice, right in the date, cause girl.
On entend le délicieux rock du groupe Testosterone. José Bossé, vous vous intéressez aux hormones ce soir.
Hein? Ben oui, après les seins la semaine dernière, pourquoi ne pas rester dans l'anatomique en abordant ce soir la testostérone?
Bravo!
On voit que c'est pas votre force manger. Hein?
Ah ben
dans The Economist, un magazine qui, malgré son titre, traite aussi de sujets puérils comme le sport, je lisais un article sur la victoire et le taux de testostérone. Ah. La théorie s'appelle l'hypothèse du défi et suppose que les mâles en compétition compétition voient leur taux de testostérone augmenter quand ils gagnent et diminuer quand ils perdent.
Mais qu'est-ce qui se passe en cas de match nul comme au soccer, mettons?
Ben, c'est tout des perdants. Ah, quand on dit que le soccer, c'est un sport de fuffie, la fluctuation du taux de testostérone a été observée chez les lutteurs, les joueurs de tennis et les joueurs d'échecs.
Oui, ça sent l'homme, un joueur d'échecs.
Oui. Clair, et qu'est-ce que ça fait, un surplus de testostérone dans le sang? Ça fait exploser la libido, notamment. Il semblerait même, et c'est là que c'est intéressant, que la victoire affecte la testostérone des spectateurs aussi. Dans l'article, on faisait le lien entre le résultat des élections américaines et la consommation de porno sur le web. États qui ont voté pour le gagnant de la présidentielle de 2004 et de 2008, les recherches pour la pornographie sur le web ont augmenté de façon significative le soir de la victoire.
C'est pour ça que Paul se zigne toujours sous ma jambe quand le Canadien gagne.
Gageons que vous ne verrez plus les journalistes sportifs de la même façon après une victoire, comme ici pendant les séries à l'attaque à 5.
Oh, ça gage un bon fessier. On était dans la salle de maquillage en train de regarder ça, les dernières minutes.
Du cadre de porte.
Ben oui, Gabi, il se cache dans le cadre de porte. Il n'aime pas ça être trop proche de l'action.
Pourquoi Gabi se cache, le coquin? Bon, au-delà de cette information-là, qui est, disons, assez excitante, le concept de la testostérone est souvent associé au sport pour des raisons évidentes, vous allez me dire, puisque la testostérone artificielle, les stéroïdes de anabolisants sont utilisés pour booster les performances sportives.
Oui, ou bien rapetisser les parties intimes aussi.
Oui, ça rapetisse également le discernement. Rappelez-vous de Lawrence Wendell Fole.
C'est un footballeur
qui a fait son temps auprès des Alouettes dans les années 80. Il a avoué avoir pris du Dianabol dans le temps que c'était légal, là, avant 1990. Le premier symptôme d'une altération au discernement est apparu quand il est passé à la lutte professionnelle en tant que Lex Luger.
You got no business in my backyard, Luger. Let me tell you why I'm here. I'll make it clear right up front. I'm here for one reason and one reason only, to take that belt. That's why I'm here.
Ça parle fort, ce monsieur-là.
Oui, ça, c'est un autre symptôme des testosterone junkies, la voix de monstre à famille. Après 15 ans de bronzage extrême, de spandex fluo et de consommation généreuse, sont venues quelques inculpations pour possession de drogue illégale. Et Lex Luger est maintenant un born-again Christian et prêche auprès des sportifs de ne pas faire comme lui.
Oui, mais le spandex, quand même.
Non, je parle pas pour le spandex, ça, là, pour les stéroïdes. Un autre exemple de discernement douteux, Dave Morissette, qu'on connaît bien, qui pense, lui, avoir des talents de comédien.
Selon la Sécu, le meilleur constructeur de maisons usinées au Québec, c'est Profab.
Qu'est-ce que tu fais là?
On pourra d'ailleurs le voir à l'œuvre dans Lancé contre le film dans deux semaines, promet.
Qu'est-ce que tu fais là avec la nationale?
Certains s'injectent la testostérone, d'autres en font des événements comme le Texas Testosterone Festival. C'est un festival de quoi, vous pensez?
D'ingénieurs.
C'est un événement d'une fin de semaine qui regroupe les intérêts des vrais gars. À 10h, on a l'interprétation de l'hymne national américain par des chanteuses en bikini. Ensuite, des démonstrations de brassage de bière maison et de peinture sur gros bessic à gaz. À 18h, un concours de bikini. Et l'activité populaire du Testosterone Festival, tenez-vous bien, un tournoi de mangeage d'oignons crus. Celui qui en mange le plus en 5 minutes et le gagnant en a bouffé une livre. Mais malheureusement, il n'y a eu qu'une seule édition du festival en 2009 par manque de commanditaires. Depuis qu'ils ont perdu leur festival, leur taux de testostérone a chuté. Ils avaient pourtant un thème rassembleur. On écoute.
Bon, ben c'est à ça que ça sert du discernement, Josie. Arrêtez-moi ça là. Merci!
Vous savez comment c'est fait un coude, là? Le coude, ça protège le bout du coude. Martin Lemay, 2008.
Revue de presse, une présentation de Club Presse.
Il s'en passe des choses des nouvelles. Pour en parler, allons retrouver notre hockeyeur retraité, Brian Briand, en direct de son sous-sol pour sa revue de presse la semaine. Brian?
Ça va pas mal bien. Bonsoir.
Bonsoir. Brian, alors que le Canadien éprouve des problèmes avec son joueur de centre numéro 2, les Américains, eux, renforcent l'aile droite.
Effectivement, mon Jérémy, t'es politisé et j'aime ça. Les Américains sont allés voter la semaine dernière, pas pour un nouveau capitaine, mais plutôt pour changer l'équipe au complet et ont décidé d'élire des républicains dans la Chambre des joueurs des représentants. Ça veut dire que grossier modo, là, les républicains de Washington jouent pour plus de 500 à domicile avec une dominante défensive, tout en prenant le contrôle de la zone centrale. Ah. Et ça, ben, c'est tout un revirement.
Okay. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Et si oui, quoi?
Veulent pas, en contrepartie. Mmh. Si on regarde ça comme du hockey de rattrapage, honnêtement, ça dépend des circonstances. Quand un club va bien, il va bien. Puis pour l'instant, ça dépend si, nonobstant, ça va bien. Et je crois que c'est le cas. Okay. Il faut associer le résultat à l'équipe. Autrement dit, je le sais pas.
Effectivement.
Tout à fait. Merci, bonsoir.
Merci, Brian.
Merci. OK. All right!
En 1952.
Celle-là est bonne.
Canadien.
Je sais pas trop comment ça s'est passé. Là.
Alors voilà.
110 pour Jean, avec Jean Dion.
Pam, pam, pam. Jean Dion. Hey.
Messieurs, madame.
Oui.
Oui, non, j'ai pas oublié.
Le bon Dieu.
Je suis là.
Avez-vous remarqué que dimanche... Oui, va se tenir le dernier, la dernière course de Grand Prix de la saison 2010.
Non, parce qu'on écoute tout ça pantoute.
À Abu Dhabi. Êtes-vous déjà allé à Abu
Dhabi? Non, mais j'ai déjà entendu beaucoup parler de cette place-là.
Non plus, je ne suis jamais allé, mais j'ai vu des diapositives.
Ah, des diapositives.
Ça, c'est encore plus vrai que des photos, ça.
En fait, il y a 4 pilotes qui sont encore dans la course, qui peuvent encore remporter le championnat.
Est-ce que ça va être très long, ça? Parce que
Fernando Alonso, Marc Webber, Sebastian Vettel et Lewis Hamilton.
Wow.
Mais vous savez, moi, j'essaie de mettre de la perspective dans tout ça et je me suis demandé, en regardant le classement de Formule 1, d'où ça vient la course de char.
Ah.
Je suis heureux de vous informer qu'en 1887, devait être présentée la première course automobile de l'histoire, organisée par le journal Le Vélocipède à Paris.
Mais oui, mais c'est des bicycles, ça, le vélocipède.
Mais un seul concurrent s'est inscrit.
Il a-t-il gagné?
Et l'épreuve a été annulée.
Ah!
Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chars à l'époque. Mais la première course automobile de l'histoire eut lieu en 1894.
D'accord.
Entre Paris et Rouen.
C'était deux équipes?
Sur une distance d'environ 130
kilomètres. Deux places.
Oui, oui, c'est ça. Okay. C'est deux villes.
J'étais demandé Paris.
C'est comme Abu Dhabi, mais en France.
Ah! Ouais. OK.
Et on présentait l'épreuve comme une course de carrosses sans chevaux.
Mais
c'est des carrosses avec pas de chevaux.
C'est comme Cendrillon, c'est ça.
Organisé par le petit journal, et il était stipulé que les véhicules participants devaient prouver qu'ils étaient sécuritaires, faciles à manier et économiques.
Comme la F1 d'aujourd'hui.
et là, je vais vous apprendre quelque chose de stupéfiant. Ceux qui ont terminé premier, c'était le Albert Comte de Dion.
Oh! Ben là, je suis stupéfait.
Son mécanicien, Georges Bouton.
Qui
conduisait la De Dion Bouton.
Je l'ai dit là avant.
De Dion Bouton. C'est mon oncle Albert. Je savais pas. il était comte, là, ou quelque chose du genre.
Ben oui, visiblement, il vous a pas légué rien.
Et la De Dion Bouton a gagné en maintenant une vitesse moyenne de 17 km/h.
Ouais, ça, vous savez que ça ferait même pas le marathon, cette affaire-là.
C'est impressionnant. C'est quoi, 18,94, vous avez dit?
Ouais. Mais en fait, ils appelaient leur véhicule un tracteur à vapeur. Et le véhicule a été décrété non pratique pour la route.
Pourquoi?
Et ils accordèrent la victoire aux deux équipages suivants, c'est-à-dire qui est installé dans une Peugeot et une Panhard Levasseur.
C'est fascinant. Ça, c'est l'encyclopédie universaliste.
Non, c'est moi.
C'est votre chronique. Okay, parfait. J'étais pas certain.
La course a aussi marqué une innovation en 1880, je ne me souviens plus combien.
Regardez dans votre article.
L'utilisation de pneumatiques.
Ah, parce qu'avant, c'était des...
Mais à l'époque, les routes, pas fort. Tu sais, ça ressemble un peu à Montréal aujourd'hui.
Et mon Dieu, ça devait être pas pratiquable.
Évidemment.
Parce qu'il y avait des chars Bergeron pour sauver les chars.
C'est pas la route. Et là, je vous projette rapidement en 1906, lorsqu'a lieu le premier Grand Prix qui s'appelle un Grand Prix, qui se tient au Mans, qui est devenu les 24 heures du Mans.
Oui.
Cette année-là se déroule une épreuve de 1200 km sur deux jours, remportée par le Hongrois Ferenc Sziss. Sur Renault.
Vous avez bien utilisé votre micro là-dessus. Là.
Mais ça s'écrit S-Z-I-S-Z.
Faites-moi ça dans le micro.
Faites ce que vous voulez avec ça.
Ça l'arrête super.
Bon. Qu'avait de particulier la voiture de
Je sais pas.
Sa voiture était munie de jantes amovibles créées par Michelin.
Fabuleux, c'est pas. Je suis stupéfait depuis 4 minutes.
Il ne met que 2 ou 3 minutes à changer un pneu.
Ah.
Alors que ses adversaires mettent 15 minutes. Imaginez aujourd'hui
on va demander au technicien, fais-moi ça out. Là,
un arrêt au puits de 15 minutes. Merci.
Tanné d'avoir toujours la même peinture sur ton casque? Procure-toi le iCast, le premier casque de Goaler à peinture changeante. Télécharge des images sur les internets et adapte ton look en fonction de tes adversaires. Tu joues contre Crosby? Mets un enfant qui broille. Contre Patrick Kane? Mets un chauffeur de taxi. Contre Shane Doan? Mets une photo de Denis Coderre. Le casque de Goaler à peinture changeante, en vend partout.
Emma Hockey, tonight, great victory for the Canadiens over the Quebec Nordiques to score 9-0. Mike Keenan and Kurt Muller were the stars of the game. Oh yes, I almost forgot. Vincent Danfous got 9 goals, breaking the old record of Toe Blake. Sad moment for sports. Well,
Réalisateur, acteur, humoriste et créateur de plusieurs personnages qui ont marqué le Québec, accueillons ce soir un gars qui n'a peur de rien, tellement qu'il a même critiqué à plusieurs reprises Canadien. Ooh. Canadien, Yves Bébeltier, bonsoir.
Bonsoir. Non, mais je le critiquais parce que qui aime bien châtie bien. Voyons donc. Hey, attention, je veux pas être barré au Centre Bell.
Ben, je me doute bien. Juste clarifier quelque chose tout de suite. Là. Qu'est-ce que ça donne comme sensation en dedans de vous d'interpréter des légendes du hockey comme Wayne Gretzky et Vincent Danfous dans des contextes d'hommage comme vous l'avez fait à plusieurs reprises? Dans votre carrière.
Dans le cas de Wayne Gretzky, ce sketch-là, il a été tourné. Je pense qu'il était à 4h30, 5h du matin.
C'est une long procédure.
Oui, c'est ça. On allait faire le lancer-compte, la parodie de lancer-compte par la suite dans la journée, puis tout ça. Puis donc, moi, j'étais le premier arrivé au maquillage. Et je ne sais pas patiner. C'est-à-dire, je peux tourner un petit peu à gauche, mais à droite, c'est très difficile. Alors, je dois interpréter une légende du hockey.
Oui, oui.
Voilà. Ce que j'ai su par la suite, ça a l'air qu'il y a, à un moment donné, Wayne Gretzky a fait une publicité à Montréal, puis il y avait un fan de RBO qui était sur l'équipe de production, ouais. Puis que lui, il a montré ça, où il a demandé de dire « C'est-tu Rod Grassider? »
Ouais.
Ça a l'air que quelqu'un ici en ville a sur une bande vidéo ou sur un tape...
Mon Dieu!
Le vrai Wayne Gretzky qui dit « C'est-tu Rod Grassider? » Ça a l'air que ça existe en quelque part.
Faut faire l'appel!
Allez-y!
Faut faire l'appel! Est-ce que vous prenez pour notre sainte flanelle, vous prenez pour les maudits nordiques?
Moi, j'étais un Canadien dans l'âme. Écoute. Mais dès que le Canadien se faisait éliminer ou dès que le Canadien joue pas, je prenais pour les Nordiques.
Ah!
Voilà.
C'est affreux.
Et ça m'est arrivé souvent. Je suis allé voir des matchs à Québec.
Ben oui, vous étiez derrière le banc à côté de Michel Bergeron.
C'est ça que j'aimais. Tu sais, mettons, Marcel Aubut, on l'a critiqué beaucoup, mais c'est un être convivial. Alors, il invitait les gens et les personnalités du show business. Puis on était derrière le banc des Nordiques. Puis après, on était dans une espèce de petit salon entre les périodes. Puis tout le monde se saluait. Puis tout le monde était. Donc, il y a un côté un peu plus familial au Colisée. Puis, écoute, j'assistais à un match quand même. Il y avait. Genre Bergeron, qui était à 12 pouces de moi.
Ouais.
12 pouces de moi et qui coachait. Alors, dans un match, Bergeron, c'est body. C'est ce que j'ai entendu de sa stratégie.
C'est ce qu'on entend encore aujourd'hui à TV.
Et c'était à l'époque, les Nordiques affrontaient les Bruins de Boston.
Ouais.
Avec le robuste et imposant Canile.
Ouais. Oh.
Et moi, dans ma TV, je regardais tout le temps les matchs de « Mais plaquez-le, cet énergumène! » Quand tu vois le mastodonte au niveau de la glace, tu dis « Ah, OK, je comprends pourquoi le gars, il n'est pas capable de le bodder. »
C'est un gars qui est dur, hein?
Ouais.
C'est un gars qui est dur.
Ça en est passé des choses au 20e siècle.
Ah, ben, on aurait tellement aimé ça, vivre ça. Yves Pépeltier, vous êtes un fervent pouleur, est-ce qu'on a appris? Puis on voit un beau trophée sur notre table.
Oui, c'est en exclusivité pour vous. Au Spornographe, regardez-le.
Je vois votre nom partout, là.
Oui, je l'ai gagné à 5 reprises. Il y a eu 14 éditions, je l'ai gagné à 5 reprises. C'est le pool Taylor Hall.
C'est Taylor Hall? Ouais, en l'honneur du jeune Taylor Hall?
Bien, maintenant, il y a un joueur qui s'appelle Taylor Hall.
Ben oui, je sais.
Mais en 1985-86, pour les Canucks de Vancouver, il y a eu un autre Taylor Hall qui a compté 4 buts en 5 matchs.
Wow!
Mais on a fait notre pool. La saison était déjà débutée et Richard Sirois s'est empressé de le sélectionner. Alors, à la fin de sa saison, il y avait toujours 4 buts. Et à la fin de sa carrière, toujours 4 buts. Alors, en l'honneur de cette performance incroyable, on a baptisé le trophée Taylor Hall.
Oui. Il a gagné 5 fois. C'est quoi votre truc?
Ouais, c'est quoi? C'est quoi vos 3 secrets pour faire un bon pool?
Le premier secret, ne jamais être émotif. Oh. Enlever difficile, toute ça. Émotivité. Donc, si un joueur qui te plaît, tu dois te départager de cet engouement, il est pareil aux autres, tu n'as pas de propension envers ce joueur.
Un bon gestionnaire.
Deuxième chose, évite de sélectionner un joueur du Canadien. Tout le monde va en vouloir un. Donc, les gens vont s'empresser de le sélectionner, ils vont le sélectionner trop haut. L'autre affaire, c'est de regarder des équipes que tu ne vois pas souvent jouer. Comme tu vois, moi, la dernière édition, j'ai sélectionné beaucoup sur la côte ouest des joueurs des Blue Jackets. Et les autres n'avaient aucune idée qui c'était. Alors, en 7e, 8e, 9e ronde, j'ai réussi à les sélectionner des joueurs.
Mais c'est beaucoup de travail, ça. Est-ce que vous gagnez des millions à la fin de ce pool-là?
Ah, j'ai gagné des dizaines de dollars.
Oh!
De toute façon, c'est que le gagnant, c'est lui qui paye le party de l'année suivante.
OK,
quand
fait
on en
c'est
fait
plate, dans le fond. Tu te fais avoir.
Mais non, c'est pour le plaisir.
Ah, c'est pour le plaisir. On est très compétitifs, nous autres.
Ben oui, votre génération.
60$, c'est une
génération
que je
gagne, de poker, de dameurs, de mercantilisme. Nous, c'était pour la beauté du geste et du sport. À l'époque, il y avait juste 6 clubs.
Ça n'existe plus, ça, de nos jours.
Non.
Yvan, c'est le temps des questions des internautes. Allez,
oui, on a une question de Jean-Chial Lajoie qui vous demande, je suis mêlé, là, est-ce que c'est Snap puis Bourdon qui est une parodie de L'Ancien Compte ou L'Ancien Compte qui est une parodie de Snap puis Bourdon?
Je trouve que c'est une série qui a vraiment marqué, en tout cas, nous, qui nous a marqué comme téléspectateurs. Donc, au moment où on a fait la parodie...
Oui.
On n'était pas loin de l'hommage, même si on en riait, là, parce qu'on regardait tous les épisodes avec passion et tout ça. Donc,
Suzy!
Mais les dernières saisons sont bonnes quand même. Oui, est-ce que vous avez écouté les dernières saisons?
Oui, j'ai hâte de voir le film.
Le film qui s'en vient.
2 semaines.
Ça s'en vient.
Une autre question de Mac Templeton, justement, qui veut savoir lequel des événements suivants arrivera en premier? La Coupe Stanley à Montréal ou un bye-bye de RBO?
La Coupe Stanley.
Ah!
Non, mais c'est parce que... Un bye-bye de RBO, c'est que... ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est énormément de travail, mais surtout, juste à se réunir les quatre ensemble, là, c'est incroyable. C'est une affaire de fou.
Une autre question, Darius, qui aimerait que vous lui expliquiez en 20 secondes les règles de base du hockey sous 6.
Premièrement, il faut aimer le jeu. Il faut aimer le hockey et la saucisse.
Ah, ouais.
C'est un bon début.
C'est un bon début.
J'aime la saucisse et j'aime le hockey.
Ouais.
Yves Pépeltier, c'est maintenant le temps de la question Crash Check d'en face.
Oh non.
Vous avez fait de l'humour, puis des films, et maintenant, c'est la bande dessinée. Prévoyez-vous trouver quelque chose où vous êtes bon dans un avenir proche? La chanson, peut-être?
Oh. Non, je ne veux pas me commettre dans la chanson. Par contre, j'ai une école de planche à voile que je suis en train de mettre sur pied. Les inscriptions vont s'ouvrir au mois de février.
Fabuleux.
Oui. On va créer un lac artificiel à côté de l'échangeur Turco.
Tu as vu
le cadre champêtre qu'ils vont créer là?
Ça va être
un lieu de villégiature. Alors, venez faire de la planche à voile.
Tu peux élever des enfants en dessous de l'échangeur Turco.
Les glissades d'eau aussi.
Puis le vin est bon.
Le vin est bon dans le champ de truc, c'est pour la planche à moi?
Oui. Je ne sais pas dans quel. Ça dépend des. On va demander à Richard Bergeron de dévier les vents pour qu'ils soient favorables.
Bon, Pelletier, merci.
Ça fait plaisir.
Merci.
Qui en joue 10, qui en joue 15, qui en joue 20.
Bonjour, monsieur, merci.
Je m'entends dans mes oreilles. Parce que les deux allent de pair.
On va essayer de faire de la boulette avec des céréales.
Effectivement.
Moi, j'ai joué dans une star de ma vie. Il s'appelait Johnny Roger.
Donc, José, vous auriez pas fouillé dans le tiroir astéroïde à Paul, toujours?
Ouais,
non,
c'est...
pourquoi?
Ben, tu sais, vous avez... OK, laisse faire. C'est déjà tout pour le Spornographe cette semaine. Maximum respect aux 3 accords au thème. Concepteur et co-animateur Olivier Niquette. Recherchiste, co-animatrice Evelyne Charuet. Scripteur Guillaume Saint-Onge, Philippe Roberge. Montage, technique et réalisation. Stéphane Gourde aux archives et nos stagiaires Geneviève Trudeau-Sénécal et Charlotte Nadeau. OK. Ben, je vais vous le dire, là, c'est que juste en dessous de votre nez, là.
Vous avez comme un Salvador Dali dans
la
face.
Ah,
la moustache! C'est Movember, les gars. Je me laisse pousser la moustache pour ramasser des fonds pour le cancer de la prostate. Ah. Allez-vous-tu m'encourager? Oui.
Tu sais, moi, la dernière fois, j'ai donné de l'argent à une fille à moustache, ça a mal viré.
En tout cas, visitez-nous au spornographe.radiocanada.ca pour savoir comment devenir notre ami Internet et pour voir les photos de la prostate de José.
Oui! En terminant, on remercie Donald Beauchamp, Alexandre Provencher, Michel Keble, Alexandre Courteau et François Lemay.
Sans oublier Jean-Philippe Papa Vautier à l'animation, ainsi que vous tous qui soignez votre pilosité à nos côtés chaque semaine.
Sur ce, on reconnecte pas plus tard que dimanche 23h pour une belle rediffusion. Ciao! Tout le monde chez Tick Horton, on s'en va remplir des coupons pour Paul. Tout le monde chez Tick Horton, on s'en...
Le hockey, c'est 90% mental et 10% dans la tête.
Venez vous faire plomber une dent pendant un match. Ah, là, recommence.
pour décrire la bisoune de Brett Favre. À commencer. Excusez. J'ai buté ce bisoune, là.
Le jeune gardien de la Ligue de Toff est revenu à la charge avec un nouveau...
Qu'est-ce que c'était, ça? Ah oui, c'est la fin. Ben oui.